Chers enfants, nous sommes aujourd'hui en rouge, vous l'aurez remarqué, et nous disons en plus la messe en rite lyonnais, et non pas en rite romain. Car nous célébrons aujourd'hui la grande fête de Saint Irénée, Irénée qui a été le deuxième évêque de Lyon, vers l'an 200 après Jésus-Christ. Savez-vous qui a été le premier évêque de Lyon ? Oui, c'est Saint Potin, bravo. Savez-vous par qui Saint Potin a été envoyé à Lyon pour être évêque ? Eh bien, c'est Saint Polycarpe qui habitait en Turquie, en Asie mineure. Et la Turquie, à l'époque, chers enfants, était très chrétienne. C'était un foyer du christianisme incroyable. Et donc, Saint Polycarpe a envoyé Saint Potin à Lyon. Et savez-vous qui a sacré Saint Polycarpe évêque ? Oui, c'est Saint Jean l'Évangéliste. Bravo. C'est Saint Jean l'Évangéliste qui a fait de Saint Polycarpe un évêque. Ça veut dire que Saint Irénée, le deuxième évêque de Lyon, chers enfants, est relié à Jésus par Saint Potin, par Saint Polycarpe et par l'apôtre Saint Jean. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique. Tous les évêques du monde, aujourd'hui encore, sont reliés à un apôtre. Ils transmettent, normalement, l'enseignement reçu des apôtres. Monseigneur Barbarin, que vous connaissez sans doute, qui était l'évêque de Lyon jusqu'au mois de mars, était donc un successeur de Saint Irénée, de Saint Potin, et il était relié au Christ par Saint Polycarpe et Saint Jean l'Évangéliste. Et dans le rite lyonnais, vous voyez, je crois qu'on peut voir qu'il y a deux moments où on parle de Saint Jean l'Évangéliste. Vous pourrez bien regarder dans vos missels, les enfants. Le premier moment, c'est à l'offertoire, quand le prêtre va mettre un peu d'eau dans le vin. Il va faire mention de Saint Jean qui a vu l'eau et le sang qui ont coulé du cœur du Christ. Et le deuxième moment, qui à vrai dire est un peu caché, eh bien c'est quand le prêtre, juste après la consécration, va mettre les bras en croix pour nous rappeler qu'à la messe, c'est le sacrifice de la croix qui est rendu présente et que Saint Jean était là, au pied de la croix. Alors je vous propose aujourd'hui de prier pour Monseigneur Barbarin qui célèbre en ce moment à la cathédrale Saint Jean une dernière messe dans le diocèse. Et après cette dernière messe, il ira rendre service chez les petites sœurs des pauvres à Rennes, à Saint-Perne, et au séminaire du diocèse de Rennes. Et peut-être qu'il aura aussi quelques missions que lui confiera le Saint-Père. Donc prions pour Monseigneur Barbarin, nous pouvons lui écrire pour le remercier. Prions pour tous les prêtres qui ont été ordonnés hier ou qui le seront aujourd'hui, ici, dans d'autres diocèses, dans d'autres communautés religieuses, pour que ces prêtres annoncent fidèlement l'Évangile dans toute sa vérité, comme Saint Irénée. Et prions pour les vocations. Donc hier, nous avons eu 4 prêtres ordonnés à la primatiale Saint-Jean. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, je pense, pour notre diocèse, pour notre Église. Alors prions pour que le Seigneur vienne choisir parmi nous des vocations sacerdotales, mais aussi des vocations religieuses et monastiques. Voilà, merci de votre prière, chers enfants. Bien, chers frères, nous célébrons aujourd'hui l'immense Sainte Irénée. Immense par la sûreté de sa doctrine, immense par son zèle pastoral qui a contribué notamment au dépérissement des courants gnostiques à Lyon et même dans une grande partie de la Gaule. Immense par sa sainteté qui a été probablement couronnée par la palme du martyr vers l'an de grâce 202. Saint Irénée est un saint immense non seulement pour notre Église à Lyon, mais aussi pour l'Église universelle. De par son histoire, puisqu'il est originaire d'Asie mineure, et il est envoyé en Gaule à Lyon. Et de Lyon, nous savons qu'il aura de nombreux contacts avec les papes. On peut dire qu'il est vraiment un pont entre les différentes parties du monde chrétien antique. De par son histoire, de par sa doctrine, puisqu'il est l'un des pères de l'Église, un des 60 pères de l'Église environ, particulièrement reconnu pour son opposition efficace aux hérétiques, et notamment à la gnose. Il est aussi le premier père, nous rappelle Benoît XVI, le premier père de l'Église à proposer un vrai catéchisme, un peu systématique, de la doctrine chrétienne, dans un petit ouvrage que vous pouvez lire, qui s'appelle « La démonstration de la prédication apostolique », un ouvrage de 50 pages, très facile à lire. Et aussi sa doctrine connue pour ses réflexions sur l'unité, l'unité de Dieu, l'unité de l'Église, l'unité de la foi catholique garantie par la tradition apostolique. Vous savez que Mgr Barbarin, en janvier 2018, avait demandé au pape d'avancer vers la proclamation de Saint Irénée comme docteur de l'Église. Et je vous propose aujourd'hui de répondre à 2 questions au sujet de cette éventuelle proclamation. Première question, quelle différence entre un père de l'Église et un docteur de l'Église? Et deuxième question, pour quelle raison Irénée pourrait-il briguer si je puis dire, ce titre de docteur de l'Église. Alors, première question, quelle différence entre le père de l'Église et le docteur de l'Église ? Cette différence, au premier abord, elle est chronologique, puisque les pères de l'Église, vous le savez, sont essentiellement des évêques et des prêtres de l'Antiquité chrétienne, même s'il y a une petite minorité d'entre eux qui vient jusqu'au XIIe siècle, comme Saint Bernard. Tandis que les docteurs de l'Église, eux, eh bien, peuvent couvrir toute l'histoire de l'Église. Cependant, la différence profonde entre le père de l'Église et le docteur de l'Église, pour la comprendre, il faut considérer que les pères de l'Église sont d'abord des pasteurs. Ce sont des évêques, en général, parfois des simples prêtres, mais généralement des évêques qui ont su allier un zèle pastoral, une solidité théologique et une vraie vie mystique. À la fois gouverner avec zèle le peuple qui leur a été confié, à la fois défendre la foi chrétienne face aux hérésies naissantes, expliciter la révélation, et tout cela dans une grande sainteté de vie. Et grâce à ces pères de l'Église, l'Église a pu transmettre fidèlement le dépôt de la foi reçu des apôtres. Le docteur de l'Église, lui, bien sûr doit être un saint aussi, mais il est déclaré docteur à cause de la sûreté de sa pensée uniquement. Une pensée qui sera d'un grand poids, d'une grande influence, durable, remarquable, dans le développement de la doctrine chrétienne. Il peut donc y avoir des pères de l'Église qui sont docteurs, comme saint Augustin, saint Jérôme, et d'autres qui ne le sont pas, comme saint Polycarpe, comme saint Justin. Parce que ces pères de l'Église qui ne sont pas docteurs officiellement, même s'ils ont su défendre avec efficacité la foi chrétienne, ils n'ont pas contribué de manière remarquable, de manière éminente, à la développer. Voilà. Et vous voyez, pour résumer, qu'on admire chez un docteur de l'Église non seulement sa pensée générale, mais surtout l'enrichissement qu'il apporte à l'explicitation du dogme chrétien dans tel ou tel domaine. Et voilà pourquoi une femme peut être docteur de l'Église, puisqu'elle peut apporter évidemment des éclairages intéressants sur la foi chrétienne. Mais elle ne peut pas être père de l'Église, parce que pour être père de l'Église, il faut être pasteur de l'Église. Et vous savez peut-être aussi que l'usage d'attribuer un nom, un surnom, au docteur de l'Église. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, est le docteur angélique. Saint Jean de la Croix est le docteur mystique. Saint François de Sales est le docteur de l'amour. Et c'est la Congrégation pour la cause des saints, après consultation de la doctrine de la foi, qui propose au pape de proclamer un saint docteur. Pour mettre en valeur la spécificité théologique de saint Irénée, et donc pour défendre sa cause de doctorat, on propose souvent de voir en lui le docteur de l'unité. Ce qui nous amène à la deuxième question. Quelles sont les raisons qui permettent d'avancer qu'Irénée de Lyon serait le docteur de l'unité ? Il y a d'abord, je crois, de mauvaises raisons, qu'on entend parfois, ici ou là. Celle de faire croire qu'Irénée, sous prétexte de paix et d'unité, serait l'homme d'un œcuménisme facile et relativiste. Or, sa pensée théologique n'admet pas de concession avec l'unité de l'Église instituée par le Christ. Il n'y a pas pour lui plusieurs chemins équivalents pour suivre le Christ. Et l'unique dépôt de la foi est porté par la tradition apostolique, confiée au collège des apôtres, collège uni à Pierre et à ses successeurs. Que saint Irénée ait su faire preuve de patience, qu'il ait su faire preuve de charité, notamment pour s'intéresser aux doctrines adverses, c'est certain. Mais cela n'enlève pas qu'il savait les réfuter avec force. Saint Irénée n'est donc pas le docteur d'une unité facile et relativiste. Il veut conduire les hommes sur l'unique chemin de vérité, le Christ. Je le cite dans la prédication apostolique. « Le chemin suivi par ceux qui ont l'esprit clair est unique et monte sans cesse. En effet, il est illuminé par une lumière qui vient du ciel. Au contraire, les chemins suivis par ceux qui ont l'esprit obscur sont nombreux et très sombres. Le premier de ces chemins conduit au royaume des cieux en unissant l'être humain à Dieu. Au contraire, les autres chemins font descendre dans la mort en séparant cet être de Dieu. » Saint Irénée est bien l'homme de l'unité, non pas par un faux œcuménisme, mais par la profondeur de sa théologie. Il contemple d'abord l'unité de Dieu, l'unité dans la Trinité. C'est le même Dieu et Père qui est le créateur du monde invisible et du monde visible et matériel. C'est le même Esprit Saint qui inspire toutes les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le Christ qui est une seule personne dans sa double nature divine et humaine. Saint Irénée voit dans les Écritures l'unité de chaque personne divine, et l'unité étant un privilège de la divinité, étant une perfection divine, eh bien, il voit tout le mouvement trinitaire qui fait remonter au Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Unité de Dieu, unité de l'homme, la personne humaine est corps et âme. Dieu l'a créé corps et âme, et Dieu la sauvera corps et âme. L'évangile d'aujourd'hui, insiste sur cette unité. Quand Jésus dit « Craignez plutôt ceux qui peuvent perdre l'âme et le corps dans la géhenne », ça veut dire que l'âme et le corps seront réunis soit dans la géhenne, soit dans la gloire. Et le but est même que notre corps, nos paroles, nos gestes, soient le plus parfaitement possible unifiés à notre cœur, à notre âme. Quiconque se déclarera devant moi, pour moi, devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Si nous sommes chrétiens, nous ne le serons pas seulement intérieurement, mais nous devons aussi l'assumer dans nos actes, dans nos paroles. Union du corps et de l'âme. C'est vrai dans notre relation à Dieu, bien sûr. C'est vrai aussi dans nos relations entre nous, entre personnes, dans nos familles. Saint Irénée insiste sur cette unité pour faire face aux gnostiques qui méprisent souvent tout ce qui est matériel. Et nous savons aujourd'hui combien notre monde cartésien nous invite à séparer sans cesse le corps de l'âme. Sous prétexte de liberté, nous divisons notre être et nous vivons un drame. Enfin, après l'unité en Dieu, l'unité de l'homme, l'unité de l'Église, bien sûr, si chère à Saint Irénée. Unité qui est dans l'espace, ce qu'on appelle la catholicité, l'universalité de l'Église. Et Irénée aime à contempler la manière dont l'unique foi chrétienne est célébrée dans diverses langues, mais avec un même contenu commun à toutes les églises. Et unité dans le temps, qu'Irénée va appeler l'apostolicité, c'est l'unité de la succession épiscopale des différentes églises, en premier lieu celle de Rome. Et le collège des évêques est véritablement le successeur du collège des apôtres et garantit l'unité de la foi. Alors oui, unité de Dieu, unité de l'homme, unité de l'histoire du salut et des Écritures, unité de l'Église. Irénée détaille dans ses écrits toutes ces formes d'unité et il voit combien elles sont liées entre elles. Si l'on rompt l'une de ces unités, eh bien, on perd l'unité du tout. Par exemple, si l'on sépare dans le Christ l'humanité et la divinité, eh bien, on en viendra forcément à des hérésies sur la Trinité ou même sur l'Église. Alors bien, chers frères, pour terminer, rendons grâce pour la riche histoire de notre diocèse qui a débuté dans le sang des martyrs de Lyon. Et n'oublions pas l'héritage théologique de Saint Irénée. Désirons qu'il soit proclamé docteur de l'Église, docteur de l'unité. Une vraie unité dans la charité et la vérité. Ne faisons pas de lui le chantre d'une unité au rabais. Ce ne serait pas irénéen. Ce serait au contraire retomber inconsciemment dans une sorte de gnose. Ce serait avouer que finalement, peu importe qu'on choisisse tel chemin, dans l'Église catholique, dans une autre Église séparée, dans une autre religion, car ce qui compterait, ce serait une réalité plus haute, plus inaccessible, peut-être plus secrète, qui dépasserait tout cela. Non, il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin n'est pas secret. C'est le Fils de Dieu fait chair. Alors prions aussi pour que notre futur évêque de Lyon, ait tout le zèle, à l'exemple de Saint Irénée, pour conduire son troupeau sur cet unique chemin de salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.